les actionnaires qui sont ici en présentiel et aussi les actionnaires d'étrangers qui participent à cette réunion par téléconférence. Merci d'être là avec nous et merci pour votre support pour Transgene et pour tout ce que les équipes sont en train de faire dans l'innovation dans la cancérologie. Je voudrais aussi vous dire que nous avons les membres du conseil d'administration qui sont présents ici et je passe la parole à notre General Counsel, John Felitti, pour ouvrir la séance. John.
Merci beaucoup, Alessandro. Bonjour, mesdames, messieurs. On va passer donc à la constitution du bureau de l'Assemblée générale. Alessandro, en tant que président de conseil, présidera donc cette Assemblée générale. Alessandro m'a nommé donc le secrétaire de la réunion. J'accepte cette désignation. Ensuite, pour compléter le bureau, nous désignons deux scrutateurs de parmi les actionnaires. On privilégie les actionnaires présents ayant le plus grand nombre de droits de vote. Et donc, je propose, si elle accepte, Sandrine Flory de THCH de jouer ce rôle. Et puis, Jean-Philippe Del à côté de moi, en tant qu'actionnaire également. Et les deux m'ont déjà confirmé leur acceptation de ce rôle. Le bureau est constitué. On peut passer à l'Assemblée générale parce que j'ai la possibilité de vous énoncer le quorum provisoire qu'on mettra à jour juste avant le vote. Mais on a représenté par les votes par correspondance les différentes délégations et les actionnaires ici présents dans la salle, des actions représentant 72,55% du capital, c'est-à-dire 72 520 578 actions, sachant que le quorum pour la partie extraordinaire de cette réunion, qui est de 25 051 018 actions, soit un quart des actions constituant le capital au total, est atteint largement, de même que le quorum du cinquième des actions nécessaires pour la partie ordinaire de l'Assemblée. Et donc, la présente Assemblée générale peut valablement délibérer. Je vous précise que les documents qui ont besoin d'être déposés et mis à disposition des actionnaires sont ici devant moi. Le bureau de l'Assemblée est valablement constitué également de ce point de vue. Je vais passer ensuite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je vous rappelle que l'ordre du jour de la réunion a été publié dans le ballot du 22 mars 2023. Il y avait un rectificatif qui était publié donc le 12 avril dans le bulletin numéro 44. Et donc, ce que je vous propose, si vous permettez, c'est de passer plus rapidement, sans lire in extenso les intitulés de chaque résolution, pour conserver un maximum de temps pour la présentation de l'activité et pour les débats. Et donc, nous proposons de ne pas lire les textes intégraux de l'ordre du jour. Les textes des 25 résolutions proposées aux actionnaires ont été publiés dans le ballot, sont disponibles dans la brochure qui vous a été envoyée. Je pense qu'on peut faire l'économie de cette lecture. Est-ce qu'il y a une objection dans la salle à cette proposition? Je vois que non, donc on va passer plus rapidement. Je vous signale juste que pendant les débats, il y a une proposition d'amendement à ces résolutions qui sera présentée. Ça concerne certaines résolutions, les résolutions 9, 10 et 11, qui font partie des résolutions qu'on appelle CMP. Mais on abordera ça en temps voulu.
Voilà, merci. Merci, John. Avant de soumettre les projets de résolution au vote des actionnaires, le directeur général et les directeurs financiers rendront compte des activités et des résultats financiers de notre société, et les commissaires aux comptes de la société présenteront leur rapport aux actionnaires. Ensuite, le secrétaire fournira une synthèse des résolutions présentées au vote. Avant de passer la parole à Heidi, je voulais prendre un moment pour remercier Heidi pour son engagement pendant les dernières 2 ans et plus comme directeur général chez nous à Transgene. Et quand j'aurai l'honneur d'assumer le mandat de directeur général juin prochain, je sais que je peux compter sur Heidi pour la transition, et nous allons travailler très étroitement comme nous l'avons fait pendant les dernières 2 mois. Heidi, c'est à toi.
Merci Alessandro, et ravi de vous présenter le bilan de cette activité de cette année 2022. Vous savez que Transgene est une société qui développe des solutions contre le cancer et une société d'immunothérapie. Notre expertise, c'est vraiment d'utiliser les virus, de les optimiser pour en faire des armes contre le cancer. L'immunothérapie est une nouvelle espoir, aujourd'hui même une nouvelle réalité pour les patients qui malheureusement restent des besoins très 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 forts. Par exemple, un des champs dans lesquels nous sommes investis, dans les cancers anogénitaux, un chiffre toujours frappant aujourd'hui, plus de 1000 décès de femmes chaque année en France des suites des cancers de col de l'utérus, par exemple, et d'autres chiffres comme ça terribles contre lesquels nous essayons de nous battre avec nos solutions. Le concept de l'immunothérapie, c'est de stimuler, de dupliquer l'action du système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses. Et c'est des solutions qui sont véritablement en plus de ce qui existe déjà historiquement de chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Le Transgene est au cœur de ces batailles. Vous savez que nous sommes basés principalement à Strasbourg, où nous sommes aujourd'hui, ainsi qu'aux États-Unis. Évidemment, nous sommes cotés à Euronext Paris. Aujourd'hui, Transgene, c'est plus de 160 collaborateurs, un grand nombre de brevets, 140 aujourd'hui, et des dépôts réguliers, ainsi que de nombreuses publications scientifiques. Ce sont aussi des partenariats importants avec Merck ou NEC, par exemple. On est au cœur de l'immunothérapie, et en particulier dans 2 domaines très actifs, avec beaucoup de développement, par les données que nous apportons, nous, Transgene, mais aussi que nos pairs amènent. Ce sont à la fois les virus oncolytiques et les vaccins thérapeutiques, qui sont 2 modalités différentes d'utilisation des virus pour développer des nouvelles solutions contre le cancer. Encore une fois, Transgene, on est au cœur de l'oncologie, au cœur de l'immunothérapie, dans 2 secteurs qui avancent énormément ces temps-ci et qui sont en train d'amener de nouvelles solutions pour les patients. Donc nous, nos deux piliers, ce sont ces vaccins thérapeutiques et ces virus oncolytiques, 2 modalités pour créer des nouveaux produits. Et donc notre savoir-faire, c'est d'optimiser des virus, enfin des vecteurs contre le cancer, de les armer, c'est-à-dire de les rendre plus puissants et donc le décliner maintenant en produits concrets, et ensuite de trouver les bonnes indications où il y a un fort besoin médical et où nos produits peuvent apporter la plus grande valeur ajoutée au bénéfice des patients. On a donc sur ces 2 plateformes sont transformées en 5 produits, et on a aussi la chance, grâce à nos investissements des années précédentes et qu'on continue à renforcer, de cette unité de fabrication, ou BPF, donc aux bonnes pratiques pharmaceutiques, qui nous permet de produire des lots cliniques pour les essais cliniques. Voici la présentation du portefeuille de nos produits, donc 5 produits en essais cliniques, 2 vaccins thérapeutiques et 3 virus oncolytiques. TG4050 en particulier, notre produit individualisé, TG4001, notre produit le plus avancé dans le papillomavirus et 3 virus oncolytiques. Le 2022 a été une année très riche en avancement, avec beaucoup de données positives sur les produits, et on y reviendra juste après sur la plateforme IVAC le projet d'utiliser les enjeux politiques sur notre plateforme Invirio. En termes financiers, nous avons une consommation d'environ 22,8 millions d'euros l'année dernière, lors de nos dernières communications, et nous avons confirmé notre visibilité financière jusqu'au début de 2024. Notre organisation est en amélioration constante, et l'année dernière en particulier, je vous rappelle la nomination au conseil d'administration de deux nouveaux administrateurs, Alessandro Riva et Jean-Yves Blais, qui viennent renforcer les compétences du conseil, et en particulier la nomination d'Alessandro comme président du conseil d'administration depuis maintenant un an. Ensuite, nous avons mis en place un nouveau conseil scientifique avec deux personnes de grande qualité qui nous apportent leur expertise pour améliorer encore la création et le développement de nouveaux produits. Les avancées de ces produits se sont traduites en particulier par des publications scientifiques, dans des journaux scientifiques, une forte présence à des congrès, par exemple une liste ici partielle avec l'ACER avec deux publications, l'ASCO avec aussi un poster, ALESMO sur l'ensemble des deux plateformes, et puis une grande fierté avec ce prix du meilleur article dans le journal GITC, qui est un journal majeur dans l'oncologie. Ce prix a été remis lors de la conférence SITC fin d'année 2022. Si on se penche maintenant vraiment sur le cœur du réacteur, quelles ont été les avancées de nos produits en 2022? Alors, produit par produit, TG4050, notre produit individualisé, qui est dans deux essais cliniques, et en particulier l'essai majeur dans le tête et cou, on a confirmé des données prometteuses en monothérapie, qui nous a amené donc au premier semestre 2023, pardon, au début du traitement du dernier patient dans cet essai. Et donc nous travaillons à la suite pour le développement de ce produit-là. TG4001, nous avons réalisé une analyse intermédiaire positive sur la base de la survie en progression fin 2022, qui était une étape majeure, et la réussite de cette étape nous permet maintenant de continuer cet essai avec un bon niveau de confiance. Nous visons la randomisation du dernier patient en 2024, ce qui nous permettra ensuite d'obtenir en 2024 aussi les résultats de cet essai randomisé. C'est le premier vaccin thérapeutique dans un essai randomisé dans les cancers anogénitaux. Et nous travaillons aussi sur la suite du développement de ces produits. Donc ça, c'était pour les vaccins. Si on se penche sur le versant des oncolytiques, aussi beaucoup d'avancées majeures, donc sur une plateforme Invirio, quelque chose d'essentiel, c'est les éléments qui nous permettent de confirmer la faisabilité de l'administration intraveineuse de nos produits, parce que les virus oncolytiques sont plus classiquement administrés en intratumoral, ce qui est intéressant, mais a en même temps un certain nombre de limitations. Et la barrière que nous voulons vraiment franchir, c'est cette démonstration de l'efficacité après une injection en intraveineuse. Et donc cela a été confirmé par des données sur le produit TG6000. En 2022, on a beaucoup avancé sur TG6050, qui s'est traduit par le lancement de ce nouvel essai clinique. Et nous attendons l'inclusion du premier patient très prochainement, au premier semestre 2023. BT-001, notre autre virus oncolytique, nous avons communiqué les dernières, en partenariat avec BioInvent, les premières données positives en monothérapie. Nous sommes en train de finir cette partie 1A, donc de phase 1 en monothérapie. Nous communiquerons les données à l'issue de cette étape. Ça nous permettra au deuxième semestre 2023 de passer à la phase 1B, qui est la phase de combinaison de ce produit avec le pembrolizumab. Donc beaucoup d'avancées en 2022 qui se traduisent sur des étapes majeures que nous réaliserons en 2023. Tout ça s'appuie sur le travail très intense des équipes, de vos équipes à Transgène, mais aussi sur un partenariat très fort avec les hôpitaux, parce qu'on a besoin de la conviction des cliniciens et de travail de l'ensemble des équipes pour proposer aux patients ces thérapies innovantes et ensuite de les apporter concrètement aux patients. Donc voici la liste des principaux centres hospitalo-universitaires avec qui on travaille à travers le monde, en France, en Europe et aux États-Unis. Merci à toutes les équipes et à tous les patients. Notre cœur de métier, c'est de développer des nouveaux médicaments pour les patients atteints de cancer. Et cela, on le fait dans les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale. Voici un résumé très succinct de ce que l'on fait sur l'ensemble des aspects de la RSE. Et donc, c'est notre engagement envers l'ensemble des parties prenantes, nos patients, nos partenaires, nos collaborateurs, nos actionnaires, par exemple aujourd'hui à travers cette Assemblée générale, les investisseurs, la société, les territoires et plus largement envers la planète. Ces actions qui ont, je pense, ont été engagées pour la plupart il y a très longtemps et qui maintenant se traduisent aussi par une formalisation plus forte, se retrouvent traduites à travers des notations intéressantes qui sont indiquées ici, par exemple 88% sur la notation Gaïa et qui finance, avec une progression année par année et aussi une satisfaction de 92% de l'index égalité professionnelle, qui nous laisse encore des marges de progrès pour l'avenir. Un point particulier qui a trait à cette démarche RSE, c'est l'engagement climatique. Une démarche que nous allons renforcer et notre programme majeur pour 2023, ça va d'abord être de mesurer notre impact sur le changement climatique, parce que de cette mesure va pouvoir découler une bonne compréhension et un plan d'action. On va mettre en œuvre les méthodes bien connues dans ce domaine-là et on va travailler sur les trois scopes d'impact climatique. Le scope 1, où, compte tenu de notre activité, on a une absence d'émissions directes de gaz à effet de serre. Donc, le scope 2, ensuite, ce sont les émissions liées à les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation directe d'énergie ici. On est à 187 tonnes équivalent CO2 en 2022. Et donc, notre tâche de 2023, ça sera d'évaluer les rejets de gaz à effet de serre dans l'ensemble de la chaîne de valeur générée par Transgène. Et donc, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Donc, ça sera le travail collectif de cette année qui découlera sur un plan d'action pour diminuer cet impact climatique. Enfin, en rapport avec cette évaluation et le plan d'action qui en découlera, c'est la taxonomie verte européenne. Pour être proactif, on a souhaité une intégration précoce de ces indicateurs dans notre URD 2022. Donc vous avez ici l'extrait. Par rapport à notre chiffre d'affaires, nous n'avons aucun chiffre d'affaires éligible. En termes de dépenses d'investissement, CAPEX, ce sont des dépenses d'investissement liées à des mesures individuelles, avec une part éligible de 5%. En termes de dépenses d'exploitation, nos OPEX sont non matériels au sens de la taxonomie. Et je passe la parole à Jean-Philippe pour les résultats financiers.
Merci Eddie. Donc, je vais commencer par vous présenter les résultats consolidés pour l'année 2022 de Transgène. Avec, pour démarrer, les principaux éléments financiers, nous avons terminé l'année 2022 avec une trésorerie disponible qui s'élevait à 26,8 millions d'euros. Notre consommation de trésorerie pour l'exercice 2022 était de 22,8 millions d'euros. En termes de produits opérationnels, en 2022, ils se sont élevés à 10,3 millions d'euros. Et nous avons terminé l'exercice 2022 par une perte nette de 32,8 millions d'euros. Comme l'a précisé Eddie, nous avons confirmé que notre visibilité financière va aujourd'hui jusqu'en début 2024. Si on regarde plus dans le détail notre compte de résultats consolidé de l'exercice 2022, donc on voit que nos produits opérationnels sont en baisse par rapport à 2021, avec un crédit d'impôt recherche qui s'est élevé à 6,9 millions d'euros en 2022 contre 7 millions d'euros en 2021. Surtout la collaboration avec AstraZeneca qui a généré 3,1 millions d'euros de revenus en 2022 contre 9,9 millions d'euros en 2021. Je rappelle qu'en 2021, on avait bénéficié du coup de la levée d'options pour un produit d'AstraZeneca qui avait généré un chiffre d'affaires plus important que les années précédentes. Concernant les dépenses opérationnelles de 2022, elles sont en légère baisse par rapport à 2021, à 40,2 millions d'euros contre 40,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel est plus bas qu'en 2021, avec une perte opérationnelle de 25,9 millions d'euros contre 23,5 millions d'euros en 2021. Et donc, comme précisé juste auparavant, le résultat net est négatif, avec une perte de 32,8 millions d'euros en 2022 contre 19,5 millions d'euros de perte en 2021. Nous regardons ensuite un peu plus dans le détail les dépenses d'R&D, hein, qui sont les principales dépenses de la société. Ces dépenses de recherche et développement en 2022 ont été de 32,2 millions d'euros, contre 32,9 en 2021. On peut constater notamment qu'on a une légère baisse des dépenses de personnel, hein, qui se sont levées à 2,2 millions d'euros contre 2,4 en 2021. Les dépenses externes sur les projets, que ce soit les projets cliniques ou les projets de recherche ou les projets de développement industriel, ont légèrement baissé également en 2022. Et par contre, on a constaté une augmentation de nos dépenses de fonctionnement avec qui sont passées de 5,1 millions d'euros en 2021 à 5,4 millions d'euros en 2022. Ça s'explique principalement par l'augmentation de notre activité de production en interne. Au final, donc, je rappelle cette consommation de trésorerie en 2022 de 22,8 millions d'euros contre 10 millions d'euros en 2021. La situation de trésorerie à fin décembre 2022 donc, était de 26,8 millions d'euros de trésorerie disponible. Et je rappelle également que nous détenons toujours des actions de la société TACI qui ont été évaluées au 31 décembre 2022 à 14,3 millions d'euros. Et nous prévoyons donc de céder ces titres d'ici mi-2023. Donc avec la trésorerie disponible à fin 2022 et le produit issu de la cession des titres de TASLI, donc notre visibilité financière s'étend aujourd'hui jusqu'à début 2024. Si nous regardons maintenant les comptes sociaux de Transgène SA pour l'année 2022, les principaux éléments à retenir sur ces comptes sociaux, donc une perte nette de 27,3 millions d'euros en 2022, contre une perte nette de 17 millions en 2021, des capitaux propres de 26,3 millions d'euros en 2022 contre 54,6 millions d'euros en 2021, un total de bilan de 60,4 millions d'euros contre 90,2 millions en 2021, et une trésorerie disponible dans Transgène SA, donc la société mère, de 26,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.
Jean-Philippe, je voudrais juste profiter de la fin de ce bilan opérationnel et financier pour faire un petit aparté. Je vais profiter pour faire un hommage à notre collaborateur Thierry Huss. Thierry était le responsable de la production ici à Transgène, un collaborateur de 24 ans de la société qui a fait beaucoup de choses, et en particulier sous l'accomplissement le plus marquant récemment et qui est une fondation pour l'avenir de Transgène, qui était le lancement de notre unité de production qu'on appelle Pilot Feed, qui est vraiment le bébé de Thierry. Thierry a malheureusement eu un malaise la semaine dernière, et il est malheureusement décédé des suites de ce malaise. Il y aura une cérémonie cet après-midi. Voilà, donc ça a été un choc pour l'ensemble des collaborateurs qui nous marquent encore. Voilà, Thierry est une personne très engagée et humainement tellement, tellement appréciable. Il nous manque déjà beaucoup, et ce bilan 2022, il lui doit beaucoup, parce que derrière tous ces chiffres, toutes ces réalisations, c'est le travail au quotidien et des produits concrets qui sortaient de notre unité que dirigeait Thierry. Donc merci à Thierry, tu nous manques déjà. Merci Jean-Philippe de reprendre le fil de l'Assemblée générale.
Je repasse la main, je pense à John, du coup, au commissaire au cours.
Nous allons inviter les commissaires Cramp, effectivement, de présenter leur rapport.
Donc, je vais vous présenter dans un premier temps, effectivement, nos rapports sur les comptes annuels et consolidés. Donc, je vais le présenter de manière groupée parce que la structure des deux rapports est identique, en particulier concernant les points clés retenus lors de notre audit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on certifie les comptes sociaux et consolidés sans réserve ni observation. Et dans le cadre de nos travaux, donc, nous avons identifié principalement deux points clés que nous avons spécifiquement revus. Le premier, il concerne l'évaluation des titres Tasly Biopharma, où on a revu effectivement les modalités retenues par la société pour établir dans les comptes sociaux la valeur recouvrable et dans les comptes consolidés la juste valeur. Cette évaluation, elle a été faite en particulier en prenant en compte la documentation disponible dans le contexte de l'avancée du projet de cession. Et on a aussi effectivement revu le caractère approprié des notes annexes par rapport à tous ces éléments. Le deuxième point clé, il concerne l'évaluation des avances remboursables ANNA, où on a apprécié la cohérence d'ensemble des hypothèses retenues avec les budgets et prévisions établies par la direction et présentées au conseil d'administration. On a aussi apprécié la cohérence de ces hypothèses avec les données de marché disponibles, les benchmarks disponibles et les entretiens avec la direction, et aussi apprécié finalement les informations fournies en annexe et les tests de sensibilité disclosées en annexe. Pour finir sur les rapports, nous avons aussi revu l'ensemble de la documentation juridique et financière fournie par la société aux actionnaires, et nous avons en particulier validé que le rapport financier comprenait de manière appropriée le format d'information électronique européen.
Donc, je vais vous donner un résumé succinct de notre rapport sur les conventions réglementées, dont le texte intégral est dans le document d'enregistrement universel. En ce qui concerne les conventions nouvelles pour l'exercice, je vous signale qu'il n'en a aucune qui nous a été signalée. Ensuite, deuxième partie de notre rapport qui concerne des conventions déjà approuvées, les deux sous-parties, celles qui ont trouvé à s'exécuter dans l'exercice et celles qui n'ont pas trouvé à s'exécuter. Concernant les premières, une convention avec l'Institut Mérieux qui concerne un contrat de prestation de services entre l'Institut et Transgène, pour lequel on vous signale que votre société a enregistré une charge de 280 304 euros cette année, et également une régularisation qui a donné lieu à un avoir de 34 740 euros. Deuxième convention avec la société ABL, Europe SAS, qui a trois volets. La première, c'est un contrat de sous-location pour laquelle votre société a enregistré un produit de 229 644 euros. Un deuxième concernant le reclassement de salariés qui s'intitule Social Agreement, pour lequel votre société a enregistré une charge de 97 710 euros. Et dernier volet qui concerne les prestations de services de bioproduction, pour laquelle votre société a enregistré une charge de 2 094 362 euros. Donc, deuxième partie concerne des conventions qui ont déjà été approuvées mais qui n'ont pas trouvé à s'exécuter au cours de l'exercice. Donc, avec l'Institut Mérieux, un accord relatif à la gestion de la mobilité des employés au sein de l'Institut ou de la Fondation Mérieux, pour lequel il n'y a pas eu de charge cette année. Et la dernière convention concerne une convention avec les sociétés Elzalis Biotech et TSGH, qui fait suite à la sortie de votre société de cet investissement, où on vous signale qu'il reste un encours de 33 807 euros détenus sur TSGH au 31 décembre 2022. Voilà pour notre rapport sur les conventions.
Merci. Merci Jean, merci Stéphane. Alors, après la présentation de l'activité 2022 par les directions, ainsi que la présentation des comptes par les acteurs financiers, et en complément donc la présentation des rapports afférents par nos commissaires aux comptes, on va vous exposer les résolutions qui vous sont proposées pour vote aujourd'hui, avant de passer au débat. Comme ça, vous avez justement tous les éléments nécessaires pour animer la discussion pendant les débats. Donc, les premières résolutions présentées concernent l'arrêté des comptes sociaux et consolidés de 2022, ainsi que l'affectation du résultat et le quitus donné aux administrateurs une fois les comptes adoptés. Comme votre société a été déficitaire en 2022, comptablement, la perte s'additionne au post-report à nouveau. Dans la partie ordinaire, il est également demandé d'approuver la rémunération variable 2022 des dirigeants mandataires sociaux et les principes de rémunération pour l'exercice 2023 pour ces mêmes personnes, comme demandé par la loi PACTE. La politique de rémunération proposée pour les dirigeants mandataires sociaux, qu'on appelle parfois les DMS, en 2023 vous est soumise dans sa globalité et par catégorie de mandataires sociaux. C'est pour ça qu'il y a une multiplicité de résolutions présentées dans cette série de 5 résolutions. Pour ces résolutions en particulier, j'attire votre attention au fait qu'à la suite de la décision du Conseil de nommer M. Alessandro Riva PDG de Transgen, il y a une proposition d'actionnaire que je vous apporte qui est soumise à l'AGM pour amender la part fixe du PDG dans la politique de vote, excusez-moi, dans la politique de rémunération à titre de 2023. Je vous exposerai en plus de détails cette proposition à la fin de cet exposé, mais d'abord je vais continuer à vous présenter l'ensemble des résolutions. Donc, le mandat de 5 administrateurs arrive à échéance et le Conseil vous propose leur renouvellement ainsi que la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, Mme Carole Stukley. Et je signale juste la présence de Mme Carole Stukley dans la salle ainsi que les administrateurs en exercice. Merci pour votre présence. Si ces résolutions sont adoptées, compte tenu de la démission de Mme Espinasse, votre conseil sera composé d'une majorité d'administrateurs indépendants. La partie ordinaire inclut également les résolutions habituelles de l'autorisation de rachat d'actions et la présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, telles que présentées par M. Stéphane Devin à l'instant. Les résolutions extraordinaires concernent principalement le renouvellement des autorisations d'augmentation de capital proposées dans l'optique du refinancement périodique de votre société. Le dimensionnement évolue à 100 millions d'actions au total. C'est le reflet des éventuels besoins de financement pour les activités des prochaines années. La 23e résolution autoriserait le Conseil à mettre en place un plan de souscription d'actions réservées au personnel. Mais comme le Conseil ne trouve pas ce dispositif adapté à la société, qui octroie déjà des actions à titre gratuit à ses collaborateurs, le Conseil recommande un vote contre cette résolution, à la différence des autres qui ont accueilli une recommandation de vote favorable. Et pour terminer, donc, la 25e résolution propose une délégation à la direction pour la mise en œuvre des résolutions qui seront adoptées. Je passe donc à la proposition de l'actionnaire qui vous servait. Voilà. Excusez-moi. On est. Si on peut afficher, excusez-moi, le 29. Le slide 29. Excusez-moi. Ok. Sur la version affichée pour la télétransmission, merci de mettre le 29. Donc, je vous apporte donc une proposition d'actionnaire que moi-même je vous apporte en tant qu'actionnaire en association avec THGH, l'actionnaire principal de la société, qui propose des amendements aux résolutions 9, 10 et 11. C'est un amendement qui est proposé également, qui est notifié par les billets de notre communiqué de presse de ce matin, publié avant l'Assemblée générale. La proposition est une révision de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux de la société du fait du cumul des deux fonctions de président et de directeur général. Dû à la nomination à ce nouveau mandat de M. Alessandro Riva. La finalité de ces amendements est de porter la rémunération fixe du nouveau poste de président directeur général, PDG, à 600 000 euros, sans modification des autres éléments de rémunération dans la politique de rémunération au titre de 2023. Alors, pour la télétransmission, nous allons afficher donc, le slide 30, qui affiche donc le projet d'amendement à la résolution 9. Cet amendement laisse inchanger le texte existant de la résolution en ajoutant à la fin les mots suivants. Virgule. Avec la modification suivante, deux points. En cas de cumul de fonctions de président et de directeur général, le président ne touche plus la rémunération distincte de celle du directeur général et la part fixe de ce dernier passe de 240 000 euros par an à 600 000 euros par an. Donc on peut projeter le slide suivant qui présente la modification correspondante pour la résolution 10. Donc, pour la 10e résolution, la proposition est d'ajouter au texte existant la modification équivalente avec les modifications juste dues au fait que ce n'est pas la même résolution, pour préciser avec la modification suivante, deux points, en cas de cumul des fonctions de président et de directeur général, le président ne touche plus de rémunération distincte de celle du directeur général et la part fixe de ce dernier passe de 240 000 euros par an à 600 000 euros par an. Et pour la résolution 11, qui est la troisième qui doit être modifiée pour mettre en œuvre la proposition de rémunération fixe qui serait applicable au mandataire PDG, il est d'une manière assez similaire proposé d'ajouter au texte existant de cette résolution la clause suivante, virgule, avec la modification suivante de points. En cas de cumul des fonctions de président et de directeur général, le part fixe passe de 240 000 euros par an à 600 000 euros par an. Point. Donc, c'est les trois résolutions qui doivent être modifiées pour mettre en œuvre, comme j'ai dit, donc cette modification de rémunération dans la politique qui était publiée dans notre URD à titre de la rémunération 2023. Donc, cette résolution, excusez-moi, ces propositions d'amendement présentées à la salle, on va pouvoir passer avec la permission d'Alessandro.
Est-ce qu'il y a des questions d'abord dans la salle avant de passer au vote? Donc, on laisse.
On a eu, je peux signaler que cette année, alors c'est pas l'habitude, mais on a reçu des questions écrites de la part d'un actionnaire. On va présenter ces questions écrites. Je peux avancer, c'est ça. Ouais. Il y en avait quatre. Donc, le conseil avait délégué à son directeur général, effectivement, l'autorité de reprendre à ces questions de la part de la société. Je vais vous présenter les questions qui sont affichées dans la salle et pour le public. Donc, la première question, pour quelle année peut-on raisonnablement espérer un résultat opérationnel positif? La réponse de la direction. Au vu de notre activité, toute réponse à cette question serait spéculative. Comme vous le savez, le business model d'une société de biotechnologie consiste à générer des revenus dans le cadre des accords de licence. Par nature, de tels accords sont difficiles à anticiper et pourraient ne pas générer immédiatement un niveau de revenus suffisant pour atteindre un résultat opérationnel positif. Transgène a déjà affiché un résultat positif comme en 2018 et nous mettons tout en œuvre pour que ceci soit à nouveau le cas dans les années à venir. La deuxième question présentée par écrit, quel fut en 2022 en euros le plus bas salaire brut annuel équivalent de temps plein au sein de Transgène? La réponse de la direction. Le salaire le plus bas pour apprenti et alternant reconstitué en temps plein s'élève à 24 050 euros. Troisième question, Transgène accueille-t-elle des étudiants en master et en stage? Si oui, combien en a-t-elle accueilli en 2022? Ont-ils été rémunérés? Et si Transgène n'en accueille pas, pourquoi? la réponse de la direction. 6 étudiants universitaires accueillis en 2022 ont préparé un diplôme de type Master 1 ou 2 et tous ont été rémunérés. Et pour terminer, la dernière question, qui est plutôt de nature technique, le document d'enregistrement universel 2022 sous sa forme PDF présente un décalage de 2 pages entre la numérotation écrite sur les pages et la numérotation automatique PDF, si bien que quand on utilise un lecteur pour aller à la page 30, par exemple, on se retrouve sur la page numérotée 28. Serait-il possible que les documents PDF à l'avenir mis à disposition des actionnaires présentent une numérotation unifiée des pages? Et la réponse de la société, c'est que la société prend note de la difficulté technique soulevée par l'actionnaire. Je suis désolé d'avoir tout lu en extenso, mais j'ai compris qu'il y avait peut-être une absence d'affichage sur le webcast. Et donc, il est préférable d'exposer in extenso les questions pour le bénéfice de tous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle ou par téléphone? Alors sinon, nous passons au vote.
Question. Merci Alessandro.
Oui, j'avais
une question.
Donc, on vient tous d'apprendre, certains plutôt que d'autres, que M. Riva devenait PDG du Français. Donc, j'aimerais savoir quels sont ses objectifs pour 2023.
Peut-être c'est pas le moment de faire un long discours, mais d'abord garder les feuilles de route qui Transgen a continué sous la direction d'Eddy. Ensuite, avec les équipes, essayer d'établir des priorités. Donc, nous voyons, pas seulement moi, mais nous comme équipe Transgen, les vaccins thérapeutiques personnalisés et notamment 40-50 avec beaucoup d'attention pour la possibilité d'une différenciation par rapport à notre collègue dans d'autres boîtes de biotechnologie qui sont en train d'avancer dans ces secteurs de l'innovation très importante. Donc, dirais-je, focus sur ces produits. Qui peut faire beaucoup de bien pour les malades avec du cancer solide. Accélération aussi de ces produits et en même temps continuer les feuilles de route sur les autres deux domaines thérapeutiques très importants que nous avons, c'est-à-dire les vaccins thérapeutiques avec des antigènes partagés comme la TG40001. Et comprendre surtout la suite pour des études potentiellement de nature pivotale. Et ensuite, tracer une feuille de route, dirais-je, aussi ambitieuse sur les virus oncolytiques. Et dirais-je, encore plus important, c'est que l'équipe a démarré, essayer de comprendre comment nous pouvons avoir des produits qui sont faisables par voie intraveineuse, au niveau des virus oncolytiques, parce que c'est à ce niveau-là, en fait, où les défis existent pour la communauté médicale, pour les malades et pour notre société. Donc, nous sommes, je pense, bien positionnés pour continuer ces défis, pour faire si que Transgen puisse contribuer à l'innovation dans ces 3 piliers qui sont à nous. Et donc, il y aura des précisions ultérieures parce que bon, je vais démarrer dans un mois, je vais travailler avec les équipes, on va essayer d'avoir un plan stratégique qui puisse donner vraiment une innovation à tout le monde. Et donc nous allons partager avec vous et avec la communauté, avec les investisseurs, des fur et à mesure. Donc, un grand merci, bon, comme président du conseil d'administration, j'ai passé déjà 12 mois avec Eddy, avec les équipes, à tout ce que Eddy, avec ses équipes, ont fait, dirais-je, pendant la dernière année, pour moi, mais dirais-je aussi pendant les dernières deux ans et demi, parce que tout ce qui a été fait, c'est une fondation très importante pour continuer le chemin, pour essayer de mettre notre empreinte, Transgène empreinte, dans l'innovation pour les malades avec le cancer. Et surtout, nous avons une prédilection pour les tumeurs solides, où en fait il y a les besoins les plus importants de la communauté médicale. Donc, comme on dit en France, affaire à suivre, mais c'est une bonne affaire.
Le deuxième point, en fait, c'est aussi vos objectifs financiers.
Oui. Et voilà, les objectifs financiers, on a déjà, bon, mais peut-être tu vas dire quelques mots, nous avons déjà une feuille de route sur les 5 ans par rapport à la stratégie qui Transgène a établi, validé par les conseils d'administration. Cette feuille de route prévoit de dépenser pour nos priorités, qui je viens d'évoquer, et avec beaucoup d'attention, hein, parce que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas dépenser sur tous les projets. Donc, dans cette feuille de route financière du budget, il y a des priorités. Et alors, encore une fois, les priorités vont tenir en compte les projets où nous pensons vraiment pouvoir établir une différenciation. Donc, et je les ai évoqués. Donc, je ne pense pas que nous sommes là pour donner des détails au niveau de l'aspect financier, mais bon, c'est ça que je peux vous dire. Et peut-être si tu peux...
Oui, effectivement, et pour mener à bien ce plan stratégique qu'Alessandro a rappelé, effectivement, nous avons besoin de moyens financiers complémentaires. Comme je l'ai évoqué juste avant, la visibilité financière aujourd'hui s'étend jusqu'à début 2024, ce qui veut dire que nous aurons besoin au cours de l'année de trouver des moyens financiers complémentaires. Donc on y travaille et on confiance notre capacité à obtenir des moyens supplémentaires pour prolonger notre visibilité financière.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense si... Non?
D'accord.
John, tu peux...
Merci, Alessandro. On va passer au vote. Avant de passer au vote même, je vais juste rappeler donc, le quorum définitif cette fois-ci, mais qui reste inchangé du quorum provisoire déjà annoncé, qui est en capital 72,552% du capital, c'est-à-dire 72 520 578 actions, correspond à 726 actionnaires qui sont présents ou représentés pour cette Assemblée générale. Et donc, on passe ensuite au vote. Je vais juste indiquer aux actionnaires la procédure de vote. Donc, les résultats de vote par correspondance et les pouvoirs au président ont été déjà calculés. Ils seront additionnés au vote dans la salle, parce qu'on a quelques actionnaires ici physiquement présents pour voter en personne. Après chaque vote, je vais vous annoncer le résultat. Un procès-verbal présentant ces résultats par résolution sera affiché sur le site web de la société dans les délais légaux. Sauf demande d'un ou plusieurs d'entre vous, le texte complet des résolutions ne sera pas lu. L'intitulé de chaque résolution étant affiché, je peux y référer simplement par numéro, par économie de temps, par exemple. Alors, pour le vote de chacune des résolutions 9, 10 et 11, qui fait l'objet de cette proposition d'actionnaire d'amendement, le texte sera soumis au vote en tant que texte amendé. Et si le texte amendé est approuvé par le vote, il n'y aura pas, par conséquent, lieu de voter sur le texte initial qui sera sans objet. Mais si, en revanche, le texte amendé que je vous ai lu précédemment n'est pas adopté et rejeté en assemblée, alors il y aura un vote sur le texte initial. Donc, ça complique un petit peu l'affaire. Pour chaque résolution qui bénéficie d'une recommandation positive du conseil d'administration, je vais recueillir des instructions de vote contre ou des abstentions de parmi les personnes dans la salle. Pour les trois résolutions qui font l'objet d'amendements, comme je vous ai indiqué précédemment, Ces amendements ont été présentés au conseil d'administration qui a émis une recommandation favorable à leur adoption. Et donc, résolutions amendées feront aussi l'objet des votes par pouvoir de président. Sachant que pour les instructions de vote par correspondance, parfois les instructions sur les résolutions publiées dans le ballot et les instructions pour les amendements ou nouvelles résolutions présentées en séance peuvent être différentes selon le choix de chaque actionnaire. Donc, je vous énonce juste ces détails pour vous orienter dans ce vote qui est un peu plus compliqué que nos votes habituels. Donc, je passe à la première résolution, donc ici affichée dans son intitulé, qui est un vote pour l'adoption des comptes sociaux de l'exercice 2022. Est-ce que dans la salle, nous avons des votes contre, des abstentions de vote dans la salle? Donc, sinon, la résolution est adoptée. La deuxième résolution, et pareil pour économie de temps, je vais juste référer par numéro sauf objection des personnes ici présentes. Est-ce que dans la salle, il y a des votes contre exprimés, des abstentions? Donc, cette résolution est également adoptée. Pour la troisième résolution sur l'affectation du résultat, est-ce que dans la salle, il y a des votes contre exprimés, des abstentions? Cette résolution 3 est adoptée. La quatrième résolution quitus aux administrateurs, est-ce qu'il y a des votes contre dans la salle? Non, des abstentions? J'en vois non plus, donc cette résolution est adoptée. Concernant la cinquième résolution, là on passe dans les résolutions dites C1P. Est-ce qu'il y a des votes contre exprimés dans la salle? Des abstentions? Cette résolution est également adoptée. La sixième résolution est devant vous. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Non. Cette résolution est également adoptée. Pour la septième résolution, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Cette résolution est également adoptée. Et on arrive aux huitièmes résolutions. Donc, je demande si dans la salle il y a des votes contre ou des abstentions. Je vois qu'il n'y en a aucun. Donc, cette résolution 8 est également adoptée. Pour les résolutions les suivantes, j'y réfère toujours par numéro, mais gardez en vue que là je vous présente donc. Premièrement, les versions amendées de ces résolutions. Est-ce que dans la salle, il y a des votes contre ou des abstentions concernant ces résolutions? Non. Donc, la version amendée de la neuvième résolution, qui est l'approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023, est adoptée telle que amendée. Pour la dixième résolution, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions exprimées dans la salle? Donc, la version amendée de cette résolution 10 est adoptée. Il s'agit de l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l'exercice 2023 au président. Et la dernière résolution qui fait l'objet d'une proposition d'amendement de la part d'un actionnaire, c'est l'onzième résolution que je vous présente en sa version amendée. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? cette 11e résolution dont sa version amendée est adoptée également. Il s'agit de l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l'exercice 2023 au directeur général. Adopté, merci, dans sa version amendée. On passe à la résolution 12, qui fait l'objet des votes contre ou des abstentions de la salle. Non, donc cette résolution 12 est également adoptée. Je vous soumets la 13e résolution. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Non, donc cette résolution 13 est également adoptée. Je vous soumets la 14e résolution. Là, on commence à traiter les renouvellements de mandat d'administrateur. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous présente la 15e résolution. Est-ce que dans la salle, il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas. Cette résolution est adoptée. Je vous présente la 16e résolution. Est-ce que dans la salle, il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, cette résolution est adoptée. 17e résolution. Est-ce que dans la salle, il y a des votes contre ou des abstentions? Non, je ne vois pas. Et 18e résolution. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Non. Donc, cette résolution est également adoptée. La 19e résolution, donc, c'est la nomination d'une nouvelle administratrice, Mme Carol Stukley, ici présente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Non, donc cette résolution est adoptée. Okay. Voilà. 20e résolution, approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes présenté préalablement à cette séance de vote par notre commissaire Comte, M. Stéphane Desvins. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Non. Donc, cette résolution est adoptée. 21e résolution. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions exprimées dans la salle? J'en vois pas. Donc, cette résolution est également adoptée. Nous passons aux résolutions extraordinaires, et il y en a très peu, donc on arrive à la fin. La 22e résolution, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Donc, cette résolution est adoptée. Alors, on arrive aux 23e résolution, qui est la résolution où le Conseil a émis une recommandation négative. Il s'agit effectivement de la mise en place d'une augmentation de capital réservée aux salariés de la société adhérant au plan d'épargne d'entreprise. Donc, je fais, comme j'ai énoncé précédemment, le contraire. Je vais demander s'il y a des votes en faveur de ce dispositif dans la salle ou des abstentions. Je n'en vois pas, donc cette résolution est rejetée. Conformément à la recommandation du conseil d'administration, je signale. Je vous présente la 24e résolution, qui est l'autorisation de réduction du capital pour annulation des actions détenues par la société. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions dans la salle? Cette résolution est adoptée. Et pour terminer, 25e résolution, pouvoir pour les formalités. Est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions? Non. Donc, cette résolution est également adoptée. Et avec ça, je peux dire que nous avons soumis au vote l'intégralité des résolutions, y compris celles amendées. Et les résolutions ont été adoptées, y compris dans les versions amendées, en cohérence avec les recommandations émises aux actionnaires par votre conseil d'administration. Et avec ça, je peux repasser la parole au président.
Merci, merci John, merci au directeur général, au directeur financier, et je voudrais remercier les actionnaires qui continuent à nous être à côté dans ce chemin vers l'innovation Merci encore et je pense que nous pouvons lever l'Assemblée et il est 10h03, heure de Strasbourg. Merci à vous et bonne journée.
Merci. Au revoir.